Bienvenue.
Welcome. Herzlich willkommen. Bienvenuto. On vous souhaite le bienvenu ici à l'église de Meyrin. Si vous parlez français, si vous venez d'une autre culture, vous êtes le bienvenu. Aussi aux visiteurs, je parle surtout à Eva, sa famille, oncle, tante, les amis. C'est un grand jour pour Eva et on est très reconnaissante qu'elle puisse être là avec sa famille. Bienvenue Eva. Bienvenue aussi à ceux qui viennent régulièrement, ceux qui font le streaming ce matin pour être avec nous. Vraiment un grand, grand bienvenue. Et pour commencer, on va commencer avec les annonces. C'est Thierry qui va faire des annonces pour les prochains jours et même les mois. Wow. Carrément.
Oui, en effet, on va aller jusqu'en 2025 avec les annonces. Hein, donc, je vous conseille de sortir vos agendas. Moi, en tout cas, si vous avez une aussi bonne mémoire que moi. Une première annonce pour vous dire que on va prendre des photos durant le culte. On est en train de retravailler à différentes choses, au niveau de la communication, dont le site web, et on a besoin de photos. On aimerait avoir une base de données de photos. Maintenant, je sais que la question des photos est sensible, donc sachez simplement qu'on ne va pas publier une photo sur Internet sans votre accord. Donc déjà, vous pouvez vous détendre un petit peu par rapport à ça. Mais voilà, on a besoin de photos, donc on va en prendre. On ne va pas à chaque fois vous poser la question « Est-ce que vous êtes d'accord ?» parce que c'est compliqué. Mais sachez que voilà, ça restera à l'interne. Et puis, si besoin, on viendra vous poser la question. Vous pouvez nous ignorer complètement. Soyez le plus naturel possible. On va essayer de ne pas vous déranger trop. Mais voilà, on a besoin de photos de ce qui se vit en église pour pouvoir montrer voilà, à des visiteurs potentiels un petit peu... Qu'est-ce que c'est que l'église de Meyrin ? Merci d'avance. Quelques dates à réserver, comme on l'a dit, qui vont très loin. Alors la prochaine, c'est pas très loin, c'est dimanche prochain. Vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, c'est le culte de la fin du cathet. Donc on vous invite à venir nombreux, soutenir la personne qui finit, parce qu'il sera, tout seul cette fois-là, mais il y aura aussi d'autres personnes du cathet, la famille qui sera là. Venez pour ce moment important. Et puis, il y aura aussi la présentation du livre de David Porter avec, pour ceux qui le désirent, un petit temps de discussion avec l'auteur. Vous pourrez même vous faire signer votre livre si vous le désirez. Donc voilà, venez nombreux. Ensuite, comme chaque année, nous aurons cet été des cultes en alternance avec le CEPOM. Alors voilà, je vous donne pas ici tous les détails des thèmes des cultes, etc. Ça sera dans l'actu Meyrin, ça sera dans le programme papier qui sortira aussi. Mais sachez que, voilà, comme d'habitude, on aura des cultes en alternance. On commencera le 30 du 6 au CEPOM, et puis ensuite, ça sera chez nous, au CEPOM, chez nous, etc. Et puis, il y aura quatre temps aussi de grillade, comme chaque année, juste ici dehors sur la place. Tout le monde est le bienvenu, vos amis, vos voisins aussi. Il y aura aussi cette année des jeux qui seront prévus pour les enfants. Voilà, on va essayer de faire en sorte que les familles se sentent aussi bien et se sentent accueillies pour ces temps-là. Ensuite, le 15 septembre, on avance dans le temps, nous avons prévu une journée d'église qui, en cas de mauvais temps, sera reportée au 22 septembre. Donc voilà, on a mis les deux dates à choix au cas où. On ne sait pas encore ce qu'on va faire, mais on voulait juste que vous mettiez la date dans votre agenda pour la réserver. Pour ceci et pour d'autres événements, on cherche des gens prêts à s'engager, des gens avec des idées. Pardon. J'ai plus trop de voix. Voilà, moi je m'occupe volontiers de tout l'aspect logistique, de faire avancer ces projets-là, mais c'est vrai que j'ai besoin d'un petit peu d'aide. Tout spécialement au niveau des idées, de la créativité, de qu'est-ce qu'on va faire durant ces journées. Donc tout ça est encore à faire, mais voilà, on aura une journée d'église. On continue à avancer. Le 18 octobre, nous aurons un concert avec le groupe Écriture. Un groupe que j'ai découvert, c'est Philippe qui connaissait ce groupe, qui a fait le début des démarches. Donc voilà, un groupe super, vous pouvez aller voir, ils ont une chaîne YouTube, pas mal de ressources si vous voulez voir à quoi ça ressemble, mais un concert de qualité avec de la musique, des paroles de qualité et de nouveau un moment où vous pouvez inviter éventuellement des amis, des voisins. Donc notez bien le 18 octobre ici dans ce lieu. Et puis voilà, on arrive en 2025. pour un week-end d'église au Cyclamen, 17 et 18 mai. Donc notez bien toutes ces dates. Là aussi, le programme n'est pas du tout ficelé. On a juste réservé le lieu, réservé la date. Et on se réjouit de revivre un temps en église. Pour vous dire, ça fait quand même un bon moment qu'on n'a pas été faire un week-end d'église comme ceci. On peut montrer la slide suivante. Pour vous montrer comme le temps a passé entre deux, ça, c'est quelques personnes qui étaient là au dernier week-end d'église. Je ne sais pas si vous arrivez à les reconnaître. J'ai fait une petite sélection. Voilà, le dimanche prochain, on aura la fin du caté. Alors, il y a pas mal de jeunes là qui sont au caté aujourd'hui. Donc voilà, ils ont bien grandi, n'est-ce pas? Il y en a un ou deux là-devant, en tout cas une. N'est-ce pas, Yana? Donc voilà, ces petits sont devenus grands et on se réjouit de revivre un week-end comme ça, tous ensemble en église. Je reviens un petit peu en arrière. On aimerait aussi faire quelque chose à Noël. Il y a quelques années, on avait fait un spectacle, un événement qui s'appelait Noël en plein vent. Et il y a le désir de refaire quelque chose. Alors ça peut être la même chose, ça peut être quelque chose d'un peu différent, de très différent. Toutes les options sont ouvertes. Là aussi, je suis prêt à aller de l'avant avec ce projet, mais je ne vais pas aller de l'avant tout seul. Donc s'il y a des gens ici qui se disent « Ah ouais, c'était génial » ou « J'aimerais bien m'impliquer dans ce genre de projet », j'ai une idée, je n'ai pas du tout le temps, mais je veux aller proposer mon idée. Venez vers moi. Et puis, s'il y a assez d'idées, s'il y a assez d'énergie voilà, qui est réunie autour de ce projet, eh bien, on va aller de l'avant. Si je suis tout seul, ça va sûrement tomber à l'eau. Mais voilà, on verra. Ça dépend un peu de vous. Voilà. Et puis, pour toutes ces choses, hein, venez vers moi si vous avez envie de vous impliquer, que ce soit pour la journée d'église, pour le week-end, pour Noël. C'est toutes des choses qui sont très chouettes à vivre en église. On peut apprendre à se connaître aussi de manière différente. Mais il faut qu'on soit une petite équipe pour voilà, organiser un petit peu les activités et les aspects pratiques de ces temps-là. Voilà, merci beaucoup et à tout à l'heure.
Maintenant, on va avoir un temps de louange. Et je sais que mes enfants me posent parfois des questions, mais pourquoi on a un temps de louange? Alors, premièrement, c'est dans la Bible, il y a même des versets qui parlent de chanter ensemble. Je prends juste un petit exemple, c'est au psaume 9, c'est écrit « De tout mon cœur, je veux te louer Seigneur et raconter toutes tes merveilles. Je veux me réjouir, être au comble de la joie grâce à toi et célébrer ton nom par des chants, Dieu très haut. » Alors, il y a plusieurs manières de célébrer et de louer Dieu, mais dans un grand groupe comme le nôtre, ben, la manière de le faire plus facilement, c'est de faire des chants ensemble pour louer qui il est. Il est digne de notre louange, il est le roi des rois. Et nos mots, ils ont des pouvoirs. Alors, on sait qu'on peut blesser des gens, on peut bénir des gens. Et nous, ce matin, on veut le faire avec des chants, avec nos paroles, de dire à Dieu, on t'aime. Et on veut te louer. Merci à l'équipe de louange qui va nous conduire dans ce temps. Amen. Change les enfants, mon fils et mon fille.
Chanter, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Et en temps voulu, lui donnerons notre vie.
Les enfants, est-ce que vous savez pourquoi on se baptise? Non? Alors, on se baptise parce que quelqu'un décide qu'il croit en Jésus et qu'il veut suivre toute sa vie et qu'il reconnaît que Jésus, il est mort à la croix pour les péchés. Pour le démontrer, j'ai un petit visuel. Alors, il y a deux tasses, et une tasse, elle a des taches dessus. Les taches, ça représente nos péchés. Quand je parle de péché, je dis quand on n'est pas gentil avec un frère ou une sœur, ou on dit peut-être un grand mot ou on blesse quelqu'un. Voilà, il y a plein de différentes manières où notre vie peut avoir des petites taches, ou notre cœur. On parle souvent de notre cœur qui a des taches. Okay? Et le baptême, alors je vais devoir poser mon micro, désolé. Alors, avec le baptême, on se plonge dans l'eau et Jésus, il nous pardonne toute notre faute et quand on se lève, en fait, il a oublié tous nos péchés. Il reste dans l'eau et il ne va plus jamais se rappeler de nos péchés. C'est pourquoi on va se baptiser et Eva, elle a choisi de faire ce pas et elle va nous raconter maintenant pourquoi elle a choisi de se baptiser. Elle va faire un petit témoignage. Suivi par un petit chant qu'elle a choisi, qui lui est proche de son cœur. Et après, on passe à l'acte pourquoi on est tous ici, le baptême. Eva, viens s'il te plaît.
Bonjour, je m'appelle Eva, j'ai 15 ans et aujourd'hui je vais vous raconter pourquoi j'ai décidé de me baptiser ce matin. Pour contextualiser un peu, je viens d'une famille catholique, un petit peu pratiquante, mais pas trop. Donc, quand j'étais petite, on allait plus à l'église pour des événements, par exemple les premières communions, etc. On allait aussi au catéchiste, mais ma sœur, elle a eu une mauvaise expérience, donc moi, je n'y suis pas allée. Quand j'étais petite, ça me suffisait comme ça. Je croyais au Seigneur, mais je n'allais pas forcément à l'église. Mais quand je suis arrivée à un âge un peu plus grand, j'ai ressenti plus un besoin de comprendre les religions pour savoir là où je me retrouvais. Et voilà. Donc j'ai commencé à m'intéresser à l'islam et au christianisme. Ma mère, elle m'a un peu aidée, elle m'a acheté une Bible et un Coran, je lisais, etc. Je me renseignais un peu sur ces sujets. Et un jour, j'étais avec ma meilleure amie, Paloma, et on discutait pour que je puisse aller dormir chez elle pendant les vacances d'avril. Et on avait trouvé une date, mais le lendemain, elle devait aller à un culte inter-église. C'est un culte entre plusieurs églises évangéliques qui est organisée une fois par an. Mais pour ça, il fallait qu'elle se lève tôt. Du coup, elle m'a demandé si je voulais l'accompagner. Et je suis allée là-bas. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment découvert la foi chrétienne, plus particulièrement la foi chrétienne évangélique. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait que tout le monde était ensemble et que tout le monde se soutenait, que on faisait tous des chants ensemble, même si on ne se connaissait pas forcément. Les gens, ils venaient pour prier pour toi. Et ça m'a beaucoup aidée. Quand je suis rentrée, j'en ai parlé avec ma mère et elle était contente que je me redirige vers le christianisme. J'ai aussi appelé une amie à moi qui s'appelle Danae, et parce que je savais qu'elle était chrétienne. Et en fait, elle était aussi dans cette église, mais malheureusement, elle n'avait pas pu aller au culte. Et elle m'a aidée dans la religion. Elle m'a beaucoup aidée sur ça. Et comme on était dans la même classe, ça nous a beaucoup rapprochés. Parce que les midis, parfois, j'allais manger chez elle. Et elle m'a beaucoup aidée, surtout même parfois dans des périodes pas très cool à l'école. Et voilà, je suis très reconnaissante d'avoir pu découvrir cette voie et ça m'a donné de la force et maintenant je sais que je serai plus toute seule et que j'aurai toujours quelqu'un pour veiller sur moi et pour veiller sur ceux que j'aime.
c'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi pour un cœur à cœur avec toi. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Et quand je suis là dans ta présence. Et dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence, je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur.
Avancer un peu. Super, merci. C'est un grand privilège, Eva, pour Rebecca et moi, de t'accompagner dans ce geste qui est tellement important. C'est un des plus vieux geste de la foi, de la tradition chrétienne, puisqu'il remonte, et c'est le moins qu'on puisse le dire, on le verra tout à l'heure, à Jésus. Tu vas prolonger par ton geste un geste que lui a fait, on va en parler un peu tout à l'heure. Notre privilège pour Rebecca et moi, ça a été de t'accompagner un peu dans cette trajectoire, et je sais aussi que les jeunes du groupe CTT ont eu l'occasion de t'accompagner, puis c'est un peu un aboutissement, puis en même temps c'est un nouveau départ, c'est la suite et l'aboutissement du cœur à cœur avec le Seigneur. Ce qu'on va te demander de faire, c'est juste de t'asseoir dans l'eau. Ça va, elle est bonne ? Magnifique. Alors Eva, Rebecca et moi, on a entendu ton chemin de foi. L'église rassemblée ce matin l'a entendu aussi. Est-ce que maintenant, tu peux me donner ta main, donner une à Rebecca ? Est-ce que maintenant, devant l'église rassemblée, devant Dieu, tu peux confirmer que tu crois au Seigneur Jésus de tout ton cœur, le confesser de ta bouche ? Alors on entend ça. Il est ton sauveur, ton Seigneur, et c'est pour ça qu'en signe d'appartenance, eh ben, on va te baptiser maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Reste là quelques instants, on va prier pour toi.
On va avoir un petit temps de prière que moi je commence. Si quelqu'un dans l'assemblée souhaite te prier, sentez-vous libre de le faire, et Philippe il va clore avec une prière à la fin. Merci Seigneur pour Eva, merci pour son cœur qui souhaite te suivre, de te connaître davantage et de ne te pas le lâcher Seigneur, de trouver ton cœur encore plus près chaque jour, et je te demande de la bénir, de la guider, de la remplir avec ton paix et ta présence tous les jours. Amen.
Seigneur, merci pour ce chant qu'Eva a choisi. Je te prie pour que tous les jours de sa vie, elle vive dans la sécurité, qu'elle est aimée de toi, et que jamais personne ne pourra la séparer de cet amour, l'enlever de toi. Amen.
Seigneur, merci pour le choix d'Eva. Merci Seigneur, parce que choisir, c'est aussi donner un sens à nos vies. Et elle a donné un sens à sa vie. Alors Seigneur Jésus, merci, bénis-la Seigneur, que chaque jour de sa vie, elle puisse sentir ta présence. Et Seigneur, qu'elle puisse vivre aussi cette paix, cette joie que toi tu donnes chaque jour.
Merci Seigneur d'avoir ouvert cette voie à Eva et l'accompagner dans toute sa vie. Et maintenant, elle est encore plus forte et pour toujours.
Ouais, Seigneur, je te remercie pour le choix d'Eva. Je te remercie pour le chemin que tu as déjà fait avec elle, que ce soit avec ses amis, que ce soit avec toutes les jeunes, dans les églises qu'elle a pu fréquenter. Je te prie de continuer à l'accompagner au travers de ce choix, Seigneur. Qu'elle puisse en apprendre toujours plus sur toi, toujours plus sur elle aussi. En Jésus, Amen.
Seigneur Jésus, merci pour le bien. Merci, Seigneur, pour tout simplement ce que tu fais dans sa vie. Seigneur, aujourd'hui, les anges crient. Et
toi,
et
puis
ça,
et
avec toi.
Merci,
Seigneur.
Cher Seigneur, je te remercie beaucoup pour Eva, cette jeune femme de valeur. Je te remercie d'avoir fait ton chemin dans sa vie et de continuer à le faire. J'aimerais, Seigneur, que le cœur à cœur avec toi dure non seulement pour ce matin, pour demain, mais pour les années, les décennies qui viennent. Je te prie de faire reposer sur Eva ta grâce et ta paix. Que cette jeune femme de valeur devienne un témoin de ta bonté dans le monde, s'il te plaît. Prends soin de sa famille, de ses amis. Merci pour ceux que tu as placés sur son chemin. Puis je suis confiant de ce que tu gardes en réserve pour Eva. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
On va avoir un temps d'offrande, mais c'est aussi le moment pour les enfants de sortir. Vous pouvez profiter, vous allez faire encore une activité super chouette préparée par l'équipe d'encadrant. Alors les enfants, vous pouvez aller avec vos moniteurs dehors.
Ça va être tellement bien ce que vous faites. Je viens de jouer.
Et pendant qu'on fait un chant, on va avoir le temps, temps d'offrande. C'est un autre moment. C'est une autre manière de louer Dieu, c'est de lui donner c'est une manière de donner ce que lui il nous a donné et de le faire avec un cœur de reconnaissance. Mais sachez qu'il n'y a aucune obligation de donner. Sentez-vous libre de le faire ou ne pas faire. Il y a des petits paniers qu'on va donner, passer dans les rangs, mais il y a aussi des QR codes derrière si vous n'avez pas du liquide sur vous. Merci.
Nos voix unies.
prenez place. Avez-vous vu le Messie ? Avez-vous vu le Messie ? Alors, pour qu'on soit tout à fait clair, je parle d'une série. Une série assez remarquable, sortie récemment sur Netflix et intitulée « Messiah ». Le Messie, en français. Cette série, elle imagine le retour de nos jours du Messie. Ou du moins de quelqu'un qui prétend être le Messie. Et qui en fait est accueilli comme tel, comme le Messie, par beaucoup. Quelqu'un à qui on attribue des miracles, quelqu'un qui parle au nom de Dieu, quelqu'un, et c'est peut-être le plus surprenant, qui semble tout connaître des personnes à qui il s'adresse, des personnes qu'il rencontre. Alors bien sûr, The Messiah, le Messie, c'est une fiction. C'est une fiction. Mais c'est très intéressant de voir comment on peut imaginer la venue de Jésus dans le contexte géopolitique actuel, en l'occurrence dans cette série, dans la peau d'un migrant anonyme arrivant de Syrie. Imaginez ça à l'heure des chaînes d'infos en continu, à l'heure des réseaux sociaux. Alors on peut évidemment discuter la vision de Jésus qui ressort de cette série, une vision qui personnellement ne me convient pas tout à fait, en tout cas sur certains points, mais c'est intéressant. Et il y a un élément que je trouve particulièrement percutant dans cette série. C'est seulement lorsqu'il rencontre personnellement le Messie, ce Jésus, que les personnages de la série sont vraiment interpellés. C'est seulement quand ils le rencontrent directement que les personnages de la série sont vraiment changés, que leur vie modifie son cours. Et c'est là, dans la rencontre avec Jésus le Messie, que se manifeste ou pas leur foi. C'est une série, mais ça vaut la peine. Et pour nous, c'est sans doute de cette façon dont nous devons envisager notre rencontre avec Jésus. Et là, je ne parle plus de la série. Je parle du seul, du vrai, de l'unique Messie, de Jésus. Et c'est dans une rencontre personnelle avec lui, par la foi, que nous serons transformés. C'est l'histoire d'Eva. C'est l'histoire de beaucoup parmi nous, une rencontre avec Jésus qui nous transforme. Une rencontre avec Jésus qui donne un sens à nos vies. Je ne sais pas si vous avez repéré une des prières qui a été faite tout à l'heure. Un sens à nos vies parce qu'on découvre qu'on a de la valeur pour lui et qu'il ne nous lâche pas d'une semelle d'un bout à l'autre de la vie, quelles que soient les circonstances. Il donne un sens à nos vies, mais nous devons le connaître pour trouver ce sens. Et la façon dont les évangiles nous présentent la personne de Jésus nous invite à chercher cette rencontre décisive avec lui. Et pas simplement à se faire un avis intellectuel sur le personnage Jésus. C'est toujours intéressant d'avoir un avis intellectuel, littéraire, sociétal, sur l'impact de Jésus. Mais c'est seulement dans la rencontre avec lui que nos vies prennent du sens. Alors je lis avec vous le texte de l'évangile de ce dimanche et je le lis dans cette perspective, la perspective de la rencontre. Matthieu 3, 13 à 17. À ce moment-là, Jésus vient de la Galilée au Jourdain. Il arrive auprès de Jean, Jean le Baptiste, pour être baptisé par lui. Et Jean s'y opposait et lui disait, « C'est moi qui devrais être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Accepte qu'il en soit ainsi pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi ce que Dieu demande. » Et Jean accepta. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau. Au même moment, les cieux s'ouvrirent pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venant des cieux dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui je trouve toute ma joie. » Et jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Notre texte débute ainsi, « À ce moment-là, Jésus vient de la Galilée au Jourdain. » Alors, je sais que ça paraît un peu phrase de liaison, mais cette simple indication géographique en dit plus qu'on pourrait le croire au premier abord. Parce que la Galilée, c'était loin. Et c'était un territoire un peu méprisé. On entendra d'ailleurs dans les évangiles cette formule-là. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth en Galilée ? Est-ce qu'une petite ville assez ridicule comme Nazareth, est-ce qu'une région perdue comme la Galilée peut produire un truc bien ? Est-ce que c'est jouable ? Forcément, en Galilée, Jésus ne pouvait donc être qu'en incognito. Mais tout le monde venait de Jérusalem, la capitale. Tout le monde venait de toute la région de Judée pour voir et entendre Jean le prophète, Jean le Baptiste, au bord du Jourdain. Pour Jésus, venir de Galilée au Jourdain, c'était entrer dans la vie publique. Avant, personne ne le connaissait vraiment, sauf ses tout proches. Mais à partir de ce jour-là, Jésus va commencer son ministère public et sa réputation va grandir à une vitesse folle. On pourrait se dire que Jésus a une drôle de façon d'entrer dans son ministère public. Je pense que si Jésus avait eu quelques-uns de ses fameux conseillers en communication, conseillers en image, conseillers politiques, je pense que ces hommes lui auraient déconseillé de commencer par un baptême dans le Jourdain. Il lui aurait plutôt recommandé de se rendre à Jérusalem. C'était plus porteur, plus prestigieux. C'est la capitale, il y a le temple. Et là aussi, il y avait du monde. Mais Jésus ne commence pas dans les hauteurs. Il choisit d'aller au bord du Jourdain. Et là, au bord du Jourdain, il choisit de demander le baptême à son cousin, Jean le Baptiste. Or, le baptême de Jean, la Bible nous dit que c'est un baptême de repentance. C'est un baptême, le baptême de Jean, pour changer de vie. C'est un baptême pour se préparer à la venue du Messie. Et Jésus, il prend ce baptême. Vous ne trouvez pas ça bizarre ? Honnêtement, est-ce que Jésus avait besoin d'un baptême de repentance ? Il a péché où, Jésus ? Il a besoin d'un baptême de repentance, le Christ ? Ben non. Est-ce que Jésus doit lui-même préparer la venue du Messie ? Mais on marche sur la tête. Il est le Messie. Pourquoi il devrait préparer la venue du Messie ? C'est lui le Messie. Et pourtant, il prend ce baptême, qui est un baptême de repentance et un baptême de préparation de la venue du Messie. Jésus se soumet donc à quelque chose dont il n'avait même pas besoin. Pourquoi ? Jean lui-même ne comprend pas ça. il dit à Jésus, « Eh mais sérieux, c'est moi qui devrais être baptisé par toi. C'est moi qui devrais prendre ce baptême de repentance. C'est moi qui devrais préparer la venue du Messie que tu es. » Mais non, je ne vois pas pourquoi tu viens à moi et je devrais te baptiser. Je ne comprends pas. En fait, il n'y en est pas question. Et ce sont des paroles qui rappellent étrangement celles de Pierre dans l'évangile de Jean, un petit peu plus tard dans l'histoire, mais à un moment clé aussi, lorsque Jésus lui lave les pieds. Et Pierre, dont on sait la force de caractère, va dire les choses de façon encore plus forte, encore plus radicale. Il dit à Jésus, « Non, non, jamais Jésus, tu ne me laveras les pieds, jamais, oublie. » Jean 13, verset 8. Pierre ne comprend donc pas plus que Jean ce que Jésus veut faire. Et dans les deux cas, Jésus ne leur demande pas de comprendre, mais d'obéir. Ça, c'est une de ses forces. À Jean, il dit, « Jean, accepte qu'il en soit ainsi pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi ce que Dieu demande. » Et à Pierre, il dit, « Pierre, tu ne saisis pas maintenant ce que je fais, mais tu le comprendras plus tard. » Et Jean va finalement accepter de baptiser Jésus, pas dans une jolie piscine comme celle-ci, mais dans le Jourdain. Il va le plonger dans le Jourdain et Pierre, de son côté, va finalement accepter de se laisser laver les pieds par Jésus. Mais je doute fort que l'un et l'autre aient vraiment compris pourquoi. Je crois qu'il peut y avoir une part d'irrationnel dans notre marche avec Jésus. Que tout n'est pas enfermable dans la compréhension, dans la théologie. Il peut y avoir une part d'irrationnel, d'extrêmement fort dans notre marche avec Jésus. Mais petit à petit, avec le recul et la mise en perspective dans les évangiles, nous comprenons un peu mieux. Et la mise en regard de notre épisode avec celui du lavement des pieds nous permet, je crois, de mieux comprendre la portée du baptême de Jésus. Jésus, depuis le départ, c'est un serviteur. Et nos Bibles ont lissé en français le mot, parce que le mot grec, il est beaucoup plus fort. Jésus, c'est un esclave qui lavait les pieds des invités. Comme les esclaves lavaient les pieds des invités lorsqu'ils arrivaient dans une maison, avec des pieds tout abîmés, couverts de poussière, des sandales remplies de terre. C'est ça que faisaient les esclaves dans les maisons. Or, Jésus qui est le maître et le roi des rois se fait ici, dans Jean 13, serviteur. Il n'a pas à le faire, mais il choisit de le faire. Il n'a pas à se faire baptiser, mais il choisit de se faire baptiser. Dans le geste du lavement des pieds que je lis en regard, il y a une sorte d'humiliation. Il y a un abaissement volontaire. Parce que vous pouvez le prendre comme vous voulez, mais pour laver les pieds de ses disciples, il faut que Jésus se mette à genoux, s'abaisse volontairement, prenne un peu d'eau, un linge, nous dit le texte, et vienne laver, frotter, gratter les pieds de ses disciples abîmés. C'est le rôle d'un esclave. Et Jésus se fait esclave, se fait serviteur pour ses disciples, pour des bras cassés, pour des gars qui vont demander, on l'a vu dimanche dernier, qui va avoir la première place dans le royaume des cieux. Pour un gars comme Pierre qui, malgré son engagement, « Jamais tu me laveras les pieds, jamais je te trahirai », sera le premier à le lâcher. Il va laver les pieds à Judas, qui quelques heures plus tard le trahira pour quelques pièces d'argent. Jésus le serviteur, Jésus qui donne sa vie
On comprend alors la réaction de Pierre quand Jésus se met à genoux devant lui. « Jamais tu me laveras les pieds. » En venant dans le Jourdain, demander à Dieu de le baptiser, demander à Jean, pardon, de le baptiser, Jésus a donc cette démarche d'humilité. Lui, le Fils de Dieu, le Messie, se soumet au même baptême de repentance que tous ces hommes et ces femmes qui venaient à Jean le Baptiste pour se faire baptiser en signe de leur repentance parce qu'ils avaient perçu que leur vie était fracassée et qu'ils avaient besoin d'un nouveau départ. Et ils venaient à Jean en disant « Jean, s'il te plaît, par ton baptême, montre-moi que ça peut recommencer. » Et Jean les baptisait. Et Jésus vient demander ce baptême-là. Autrement dit, en inaugurant ce baptême-là, Jésus déjà prend notre place, mes amis, la nôtre. L'un et l'autre de ces épisodes étonnants, le baptême comme le lavement des pieds, illustre la démarche assez humiliante, je trouve, de l'incarnation. Le Fils du Dieu éternel, le Fils du Dieu glorieux, la parole créatrice, la parole à l'origine de tout, devient un homme. Un être humain, et pas un homme hors sol, pas un homme protégé, pas un homme à l'écart des épreuves des autres hommes. Il devient comme les humains, comme vous et moi, dans leur condition de pécheur, dans tout ce que cela implique comme épreuve, comme tentation, comme souffrance, une démarche d'humiliation qui le conduira nécessairement à la mort sur une croix. C'est ce que Paul dira dans le fameux hymne christologique de Philippiens 2, 6 à 8. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Il a été reconnu comme un homme. Il a accepté d'être humilié. Et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Alors, loin d'être un épisode anodin, le baptême de Jésus, c'est le signe fort de sa mission et de son œuvre. Il vient pour sauver les humains. Il vient pour se solidariser à nous. Il vient pour montrer qu'un nouveau départ est toujours possible. Il est le Messie serviteur, pleinement solidaire de ses frères et sœurs en humanité jusqu'à la mort. C'est pourquoi l'épisode est couronné par une théophanie. C'est une manifestation du Dieu trinitaire où le Fils vient se faire rejoindre par le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe qui descend sur lui, et le Père se manifeste à travers la voix qui se fait entendre du ciel. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, je trouve toute ma joie. » C'est probablement sa récompense, et la plus belle de toutes. L'approbation et l'amour sans réserve de Dieu son Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. En lui, je trouve toute ma joie. Et au final, à notre niveau, est-ce que nous pourrions espérer quelque chose de plus fort que de voir le ciel s'ouvrir et peut-être entendre la voix de Dieu nous dire « Tu es mon Fils bien-aimé. Tu es ma fille bien-aimée. En toi, je trouve toute ma joie. » Ça, ce serait notre récompense et la plus belle de toutes. En toi, je trouve toute ma joie. Dieu prend de la joie en toi. Tu te rends compte la valeur de ta vie, Eva? Dieu prend de la joie en toi et le manifeste à un moment aussi fort que le baptême. J'arrive à ma conclusion et j'aimerais nous laisser trois mots clés autour de ce récit. Le premier, c'est le mot proximité. Parce que cet épisode du baptême de Jésus et ce qu'il signifie doit nous conduire à un émerveillement sans cesse renouvelé pour le miracle de l'incarnation. Le Fils de Dieu devient un être humain. Et ça signifie une proximité incroyable du Créateur avec ses créatures. Le chant que tu as choisi, Eva, le dit avec des mots, alors c'est de la poésie, hein, la chanson, mais c'est tellement juste, un cœur à cœur. La proximité de Dieu avec toi, dans ta vie à toi. Un Dieu qui se fait proche. L'amour de Dieu pour nous est si grand qu'il a accepté en son Fils de devenir comme nous. Impossible de nous être plus proches. Impossible de mieux nous connaître. Il s'abaisse à devenir notre égal pour nouer une relation d'intimité avec lui. Le Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, est devenu notre frère. Ce Dieu infini, éternel, devient notre ami le plus proche. Il est celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Il est celui à qui on peut tout dire. Il est celui dont la fidélité ne se démentira jamais. Un deuxième mot-clé, surprise. Parce que Jean et plus tard Pierre ont eu du mal à comprendre Jésus au premier abord. Ils ont été surpris parce qu'il n'agissait pas comme il pensait que le Messie devrait agir, parce qu'il n'agissait pas comme il pensait que Dieu devait agir. Vous savez, si on enferme Dieu, si on enferme le Christ dans notre doctrine, dans une tradition, aussi ancienne soit-elle, aussi noble soit-elle, mais si on enferme le Dieu dans notre doctrine, il n'y aura plus de surprises. Il n'y aura peut-être plus de rencontres. Il n'y aura peut-être plus de relations authentiques non plus. Je vous propose de nous laisser surprendre par Dieu. Eva, je t'encourage à laisser la place à la surprise dans ta relation avec Dieu. Elle va arriver, la surprise. J'espère qu'elle sera souvent joyeuse. Parfois, ça peut être compliqué, la vie, hein, on sait. Mais laisse de la place à la surprise. Dieu ne te décevra pas. Il te surprendra, mais il ne te décevra pas. Parfois, il viendra nous rencontrer à travers des personnes que nous n'imaginions même pas. Parfois, il nous parlera au travers de circonstances qu'on n'avait absolument pas prévues. Peut-être c'est un culte. Peut-être que Dieu, ce matin, il veut vous surprendre. Peut-être qu'il veut vous arrêter. Peut-être qu'il veut vous donner la possibilité d'un nouveau départ, comme Eva. Vous êtes prêts? Puis vous allez résister. Si ce matin, Dieu, il veut vous dire, stop mon ami, on a un truc à faire ensemble. On a un bout de chemin à commencer, puis je te lâcherai pas, parce que je veux te sauver. Vous êtes prêts? Et puis si ce matin c'est le cas, il ne faut pas que vous repartiez comme vous êtes venu ce matin. Sérieux, ce n'est pas jouable. Si Dieu ce matin, il vous parle et il vous arrête, il faut que vous veniez nous le dire, à Rebecca ou à moi. Il faut que vous veniez nous le dire. On priera avec vous. On ne va rien faire de plus. Mais Dieu, il en a en réserve pour vous. Et un dernier mot-clé, c'est le mot confiance. Moi, je trouve intéressant de voir que même si Jean et Pierre ne comprennent pas vraiment ce que Jésus leur demande, ben ils acceptent. En fin de compte, ils lui font confiance. Et je crois que nous non plus, nous n'avons pas besoin de tout comprendre pour obéir à ce que Dieu nous demande de faire. On se retrouve parfois dans des circonstances qui nous paraissent incompréhensibles, des trucs qui nous échappent. On a l'impression d'avoir de l'eau entre les mains ou du sable entre les mains. On ne comprend pas, mais on fait confiance à Dieu. Parce que lui, il sait ce qu'il fait. On comprendra peut-être plus tard. Mais en attendant, la foi, ce n'est pas tout comprendre. La foi, ce n'est pas avoir réponse à tout. C'est d'abord faire confiance à Dieu. Y compris et surtout quand on ne comprend pas tout. Et Eva, j'aimerais t'encourager. Au fil de ta vie, des circonstances, 15 ans, tu as la vie devant toi, je te le souhaite. Fais confiance à Dieu. Il va s'authentifier dans ta vie comme il l'a fait jusqu'à présent. Il va t'emmener tellement loin avec lui. Avez-vous vu le Messie? Avez-vous vu le Messie? Est-ce que vous l'avez vu, Jésus, agir dans votre vie? Est-ce que vous l'avez vu venir à votre rencontre, à travers telle ou telle personne qu'il a mise sur votre route? L'avez-vous vu vous parler à travers telle parole lue ou entendue? Est-ce qu'il est votre ami, votre confident, autant que votre sauveur et votre Seigneur? Est-ce que vous avez vu le Messie? Est-ce que vous le voyez actuellement? Quand on reste à une foi surtout intellectuelle, on peut voir en Jésus le Fils de Dieu devenu homme, on peut même affirmer le connaître, le reconnaître, et on aura bien compris le message de l'Évangile en quelque sorte. Mais quand notre foi développe aussi sa dimension relationnelle, à travers la prière, la méditation, l'engagement concret, quand nous le connaissons dans les faits, pour de vrai, alors je vous assure que Jésus devient notre ami, notre confident, celui qui nous est le plus proche. Il vient mettre du sens et de l'épaisseur dans notre vie. Et alors, à ce moment-là, il est possible de dire, avec humilité, mais dans la foi, nous avons vu le Messie. Nous l'avons vu. Amen.
Alors, Eva, c'est les anges, le ciel avec Dieu, ils se réjouissent, mais nous aussi en tant qu'église, communauté, on se réjouit que tu as rejoint la famille de foi. Petit cadeau de l'église, c'est une Bible qui te, j'espère qu'elle va te devenir chère, que ce sera une lampe pour ton sentier, pour tes pieds, pour te montrer où tu dois aller, où tu trouves la proximité de Jésus. Il va te surprendre avec les pépites d'or que tu n'as peut-être pas encore découvert. Et en lisant, que tu découvres aussi, je peux faire confiance à Dieu et que tes racines de foi vont être de plus en plus profondes pour creuser, chercher l'eau qui vient de lui, la vie, l'eau de vie, et il te ne lâchera jamais. Merci. Maintenant, il y a Philippe qui vient et qui va clore le culte.
Il me faut là faire deux annonces pour la famille que nous représentons, des frères et sœurs. D'abord, vous annoncez le décès du papa de Christiane, Francine et Nicole, M. Samuel Fayetta. Il est décédé jeudi après-midi et le service aura lieu jeudi après-midi prochain à 14h30. À l'église évangélique L'Oasis à Morges. Et puis j'aimerais qu'on puisse se réjouir avec Laetitia, notre chère sœur, qui fête aujourd'hui, lève-toi Laetitia s'il te plaît, un anniversaire important. Je vais avoir l'élégance de ne pas annoncer les petites dizaines où j'ai le droit. J'ai le droit, tu permets Laetitia. Laetitia fête ses 50 ans aujourd'hui. Je vous propose qu'on l'applaudisse. Laetitia, j'aimerais juste dire que tu es une sœur en Christ vraiment précieuse pour nous. J'ai le bonheur de faire de temps en temps l'entretien des locaux dans ton équipe et c'est toujours un plaisir parce que tu y mets du cœur, de la sérénité et puis tu nous as fait le plaisir aussi de préparer quelque chose, je crois, pour tout à l'heure parce que notre culte va être suivi par un apéritif préparé par le groupe de jeunes et par Laetitia. Un grand merci. Moi, j'aimerais simplement prier encore pour la famille endeuillée et puis pour Laetitia. Je vous invite à la prière quelques instants. Cher Seigneur, nous te prions pour nos sœurs en Christ endeuillées et leur famille. On aimerait remettre entre tes mains Christiane, Francine, Nicole, leurs conjoints, enfants, petits-enfants, devant la perte de ce cher papa, mais qui est avec toi, qui se réjouissaient d'être avec toi. Et ils goûtent en ce moment même à l'intimité éternelle avec toi. D'une trajectoire de vie, nous sommes reconnaissants pour ta grâce dans sa vie et nous te demandons de porter toute la famille, s'il te plaît. Et puis on est reconnaissants pour notre sœur et amie Laetitia, pour ces 5 belles décennies que tu lui as données, pour sa famille. Et on se réjouit de voir, Seigneur, ce que tu tiens en réserve encore pour elle. Je te prie de faire reposer ta grâce et ta paix sur sa vie, sur celle des siens aussi. Et que Laetitia, d'une manière ou d'une autre, de tant de manières, puisse goûter à la joie de t'avoir pour sauveur. Dans le nom de Jésus, amen. Et je vous invite à vous lever pour une parole d'envoi, de bénédiction. N'oubliez pas l'apéro qui suit, il y a de belles et bonnes choses, comme d'hab, et j'ai envie de dire, mais ça vaut le coup, parce qu'alors là, on a un apport particulier avec Laetitia et les siens. Je demande à Dieu de vous accompagner dans cette nouvelle semaine, de vous renouveler les forces dont vous avez besoin, les uns et les autres, dans vos circonstances, qu'il soit votre appui, votre ancre, qu'il vienne mettre du vent dans vos voiles, et que vous trouviez vous aussi votre joie dans la marche avec lui. Allez dans la grâce et la paix. Bon dimanche à chacun et chacune.